Alors, nous sommes au Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 20. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 20, mais quand je vois que vous êtes fatigués, on peut s'arrêter. C'est bien, comme vous savez, vous pouvez écouter les enregistrements sur le site donc i-évangile. Et je crois qu'on est presque à deux ou trois personnes qui écoutent chaque message. Donc, c'est bien, mais c'est toujours là si jamais vous voulez écouter ces différentes choses. Et ça sera bien d'avoir donc tout Matthieu un jour en place. Une des choses que j'aimerais faire une fois, c'est de relire donc tout Matthieu à travers les lunettes du Sermon sur la montagne. Et on va faire quand même un tout petit peu de cela pour certaines choses aujourd'hui, que voir que ce que Jésus enseigne ici, c'est pas nécessairement un enseignement qui est pour tous à tout moment, même s'il y a des choses que nous apprenons de son enseignement et que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui. Mais ce que Jésus enseigne ici, c'est des choses que les Juifs de l'époque doivent avaler, qui doivent croire à ces choses pour pouvoir donc être dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est une mise en garde que nous arrivons au chapitre 7, mais aussi des choses pour nous à ne pas oublier. Donc, Matthieu 7, le verset 13 et 14 pour commencer. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour Jésus qui, lui, est le chemin vers toi. Et nous prions qu'à travers notre étude, à travers cette parole que Jésus a prononcée, que nous puissions te connaître et entrer par cette porte étroite pour être avec toi pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bon, quand on lise le texte et le texte qui suit, on voit qu'il y a toute une série de « deux » qui sont là, des opposés qui sont là. Il y a deux portes, une porte étroite et une porte large. Il y a deux chemins, un de ces chemins qui est resserré et l'autre qui est spacieux. Par la suite, on verra qu'il y a des prophètes, de faux prophètes, et il y a le prophète véridique qui est Jésus, le Fils de Dieu. Il y a deux destinations. Il y a la vie, mais il y a la perdition. Et il y a deux groupes. Il y a des groupes où il y en a un peu, et puis il y a un groupe où il y en a beaucoup. Et on est dans cette idée de une chose et puis l'autre. On est dans le oui, non. On est dans cette idée de polarité, Jésus, parce qu'il arrive à la fin de son enseignement et il veut mettre les gens devant le choix de le suivre ou le choix de le rejeter. Et ce semble être une contradiction biblique que nous avons, dans le sens, il dit « la porte est étroite », il dit « le chemin est étroit aussi », il dit que la porte est resserrée, il y en a peu qui le retrouvent. Ça semble être une contradiction biblique. Quand vous lisez, par exemple, dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Et ici, il parle de presque, on dirait presque facilité, n'est-ce pas? Venez à moi, je vous donne ce repos qui est là. Mais dans cette prédication sur la montagne, il semble dire que ce n'est pas facile de trouver le bon chemin et ce n'est pas facile de passer par la porte qui est étroite. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 5, les versets 3 à 5, nous lisons ceci. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bon, il commence, il dit ici que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et par la suite, il dit, et ses commandements ne sont pas pénibles. Il semble dire qu'il y a une facilité qui est là d'accepter cette vérité qui vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre passage où Jésus parle de porte étroite et de chemin resserré, avec peu de monde qui arrive à faire cela et d'autres qui vont vers leur perdition? Bon, une des choses qui peut nous aider, c'est de relire donc Luc chapitre 13, qui est un passage parallèle où Jésus donc enseigne. Donc Luc chapitre 13, les versets 23 à 30. Et je ne sais pas si j'ai tout dans le passage, mais je crois que j'ai une bonne partie. On va commencer avec la partie qui dit « Quelqu'un lui dit Seigneur ». OK? Quelqu'un lui dit Seigneur. Ça, c'est à quel verset? Vous le trouvez? C'est le verset 23. OK. Donc, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ça, c'est la fin, hein? Donc, on a sauté quelques versets. Mais notons bien, dans ce texte, il dit, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens de sauvés? Et la réponse de Jésus, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Okay? Beaucoup chercheront à entrer, ne seront pas capables. Alors, il continue donc avec cette réponse des gens à la porte. Nous avons mangé avec vous, nous avons entendu des prédications. Et Jésus va dire, non, l'essentiel, est-ce que vous avez accepté ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez obéi à cela? Jésus demande aux gens de regarder chez eux avant de regarder chez les autres, d'examiner leur propre vie. Et il les met devant les conséquences d'une obéissance ou d'un rejet de Jésus. Et Jésus nous montre que ce n'est pas assez de participer, mais d'appartenir. Et combien de Dieu est-ce que nous pouvons avoir? Bon, Jésus dit, il faut l'accepter en tout, tout ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas juste avoir un peu de Dieu, nous devons avoir tout. Et le problème, c'est que les gens qui suivaient Jésus étaient prêts à suivre l'enseignant, mais n'étaient pas prêts à suivre celui qui allait donner sa vie. Ça, c'est la porte étroite. Le chemin large, c'était que nous allons vers la victoire sur nos ennemis. Le chemin étroit, c'est que le Messie doit donner sa vie pour son peuple, que le roi donne sa vie pour ses citoyens ou pour son peuple. Ceci, nous voyons dans un autre passage qui est Jean chapitre 6. Et quand nous regardons Jean chapitre 6, nous sommes frappés parce que Jésus va nourrir donc 5 000 hommes. Et il y aura une grande foule, vraiment une grande foule, qui est en train de le suivre. Mais Jésus va commencer à prêcher. Si vous regardez dans Jean chapitre 6, le verset 22, vous retrouvez, il dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, parce que Jésus avait traversé la mer, vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Et donc, il y a toute cette foule qui est à la recherche de Jésus, toute cette foule qui veut chercher Jésus. Et quand la foule retrouve Jésus, au verset 27, regardez ce que Jésus dit. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Et donc, Jésus dit qu'il faut chercher ce qui donne la vie éternelle. Bon, eux, ils demandent, quel est ce pain? Moïse a donné un pain. Est-ce que tu vas faire la même chose? Et donc, au verset 41, après avoir parlé de sa vie, celui qui est descendu du ciel, c'est lui le pain du ciel. Au verset 41, nous lisons, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Donc, toute une grande foule qui vient à Jésus pour être nourrie. Jésus dit qu'il est descendu du ciel, il est le pain de vie, il dira par la suite, et il commence à murmurer contre lui. Jésus continue son discours, moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Et regardez le verset 52. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Okay? N'entends bien. Première chose, ils murmurent contre lui. Deuxième chose, ils sont en train de quereller, se quereller entre eux pour dire, bah, comment peut-il nous offrir son sang et sa chair? Et puis le verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Le chemin devient de plus en plus étroit. Okay? La porte de plus en plus serrée parce que Jésus est en train de parler de sa mort. Il murmurait, il se querellait et maintenant il commence à se poser des questions. Donc, ils disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et regardez le verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Okay? Le chemin est devenu trop petit. Okay? La porte était trop étroite. Ils n'étaient pas prêts à suivre un Christ, un Messie crucifié. Et Jésus, dans quelques paragraphes seulement, passe de 5000 personnes à beaucoup moins, c'est-à-dire à 12. Okay, à 12. Vous regardez la suite au verset 67. Jésus dit alors aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Juste les 12 qui sont là. Et puis nous avons ces paroles de Pierre qui dit, Seigneur, qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus va même répondre avec dureté à cela. On va parler d'une porte très étroite quand il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, il savait qu'il y avait parmi eux ceux qui n'allaient pas suivre jusqu'au bout. Jésus, donc, ici, quand il parle de ce qu'il offre au monde, il dit que j'offre ma vie. Et les gens, ils avaient la peine à accepter ce chemin et cette porte-là. Ils avaient la peine à obéir à cela. Et nous pouvons dire que effectivement le joug de Jésus est léger, okay? Que ses commandements ne sont pas lourds. Mais nous vivons aussi à l'autre côté de cette acceptation que Jésus est mort pour nous, et donc ceci nous libère. Mais pour les gens de l'époque, ce n'était pas une chose facile. Vous savez qu'il y a des choses dans les Écritures pour nous qui sont faciles. Dieu offre tout dont nous avons besoin, vraiment, dit les Écritures. Un sens à notre vie, un sens à notre souffrance, il nous donne de la joie, il nous donne de l'importance. Il dit que vous êtes important pour moi. Il nous donne un plein pardon et de l'encouragement à continuer, même à travers notre péché. Il entre en relation avec nous, donc nous, à travers Jésus, nous sommes en relation avec le Créateur de l'univers. On est en communion avec le Père par excellence, celui qui dit, je sais de quoi vous avez besoin, je suis là pour vous. Et donc, c'est facile, cette partie-là. Mais il y a des choses difficiles. Jésus dit, il faut renoncer à soi-même. Il faut se charger de notre croix. Il faut le suivre. À quelqu'un, il dit, vendez tout ce que vous possédez et vous aurez la vie éternelle en me suivant. À d'autres, il dit, je vous offre toute bénédiction spirituelle, mais ça sera à travers la souffrance physique que vous allez le recevoir. Il demande que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il nous demande d'admettre et de confesser notre péché. Il faut admettre que nous sommes des personnes humbles devant lui et ce que nous recevons est un cadeau. Vous savez que le chemin est resserré. Et une histoire que je raconte aux jeunes, c'est cette histoire inspirée de la littérature d'autrefois qui parle d'une jeune femme qui commence un voyage vers un refuge céleste, le chalet céleste, on va l'appeler. Et elle demande, comment est-ce qu'elle va reconnaître le chemin? Et il y a l'esprit qui lui dit, suis les traces de celui qui t'a précédé. Suis les traces de celui qui t'a précédé. Et donc, elle saute dans son 4x4 avec son sac à dos rempli de toutes les choses de sa maison parce qu'elle va vers le chalet céleste. Elle sait qu'elle doit quitter chez elle. Et donc, elle continue à monter, ça monte, le chemin est tortueux, mais elle arrive à un moment où c'est tellement serré qu'elle ne peut plus continuer dans son 4x4. Et donc, elle dit à l'ange, j'aimerais continuer, mais le 4x4 ne passe. Et l'ange lui dit, si tu veux continuer, c'est le seul chemin. Elle regarde en bas, elle voit un autre chemin, elle dit, mais là, il y a un chemin. Mais elle dit, il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais on n'arrive pas au chalet céleste. Elle doit prendre une décision. Elle laisse les clés dans son 4x4, elle quitte la voiture, elle prend son sac à dos et elle commence à marcher. Et c'est vrai, en marchant, en passant par ce chemin, elle commence à monter. Elle commence à monter et le chemin est bon, dur, mais bon, elle sait qu'elle va vers le chalet céleste. Et à un moment donné, donc c'est très étroit. Et elle essaie de passer avec son sac à dos, mais elle n'arrive pas. Et donc, l'ange est là et elle demande, est-ce qu'il y a un autre chemin? Elle dit, non, ça c'est le seul chemin vers le chalet céleste. Et elle regarde en bas, tout en bas, il y a cette autoroute où passe tout le monde. Elle dit, mais là, il y a un chemin. Il lui dit, ouais, mais ça va pas au chalet céleste. Et donc, elle doit prendre une décision. C'est le seul chemin. Et que fait-elle? Elle enlève son sac, elle le met là. Elle commence donc ce chemin et ça devient de plus en plus serré, de plus en plus, deux falaises les deux côtés. Elle tourne comme ceci et elle commence à passer et puis elle se coince. Qu'est-ce que c'est? Porte-monnaie. Elle pourrait passer, et puis elle demande à l'ange, est-ce le seul? Oui, c'est le seul chemin. Mais là, il y a un chemin, ça va dans un autre endroit. Le seul chemin au chalet céleste, c'est par là. Et il faut choisir. Donc, que fait-elle? Elle sort le porte-monnaie avec les photos de famille, avec son argent, avec ses cartes. Elle laisse tomber. Et c'est juste à peine qu'elle arrive. Et elle passe et le chemin maintenant, le sentier, elle monte, c'est bien. Elle va vers le chalet céleste. Elle est remplie de joie. Mais à un moment donné, il y a devant elle un grand mur. Falaise, elle n'arrive pas à monter. Elle sait qu'il y a quelque chose juste à l'autre côté de ce mur. Et elle voit qu'il y a un trou comme ceci. Elle dit à l'ange, est-ce qu'il y a un autre chemin? Et il dit, non, ça c'est le chemin au chalet céleste. Elle regarde en bas, elle dit, il y a l'autoroute. Il dit, non, mais c'est le seul chemin. Et elle dit, mais comment puis-je passer par là? Seulement un bébé pourrait passer. Et l'ange lui dit, pour entrer dans le chalet céleste, il faut naître d'en haut. Il faut redémarrer. Vous savez, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, qui avait de la peine à croire, il vient la nuit. Il dit, je sais que tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es un enseignant en Israël et tu comprends pas ces choses. Il faut naître d'en haut, il faut naître d'esprit, il faut naître d'eau. Et ça, c'est le chemin que chacun de nous avons pris, n'est-ce pas? C'est un chemin qui est, nous allons laisser ces choses, nous entrons dans la famille de Dieu à travers la foi et notre baptême, et nous montons vers le chalet céleste. Par eau et par esprit, nous y allons. Et nous sommes morts avec lui, et nous avons une nouvelle naissance. Et pour les Juifs de l'époque, après avoir entendu son enseignement, et à la fin, ils vont être frappés par son enseignement, car il enseigne comme quelqu'un qui a l'autorité. Ils vont être frappés par cela, mais ça ne sera pas facile d'accepter que cet enseignant doit donner sa vie. Que le Messie doit être crucifié, doit passer par une croix, doit être cloué sur le bois pour eux. Et c'est ça le chemin qui est difficile. Ce n'est pas d'être un disciple qui est difficile, c'est de croire ce que Jésus veut dire. Parce que pour être un disciple, il faut croire et obéir. Et ces gens, ils sont prêts à marcher avec Jésus. Et ce qu'ils ne sont pas prêts à faire, c'est d'accepter toute la suite, c'est-à-dire que Jésus ira sur la croix et qu'il va mourir. Alors, je crois que c'est ceci, une partie de l'enseignement que nous avons dans ce petit passage. J'aimerais quand même juste toucher une petite partie parce que c'est comme Justin est loin la semaine prochaine, j'aimerais quand même juste donner un peu d'élan pour la suite. Parce que au chapitre 7, les versets 15 et 20 à 20, notons bien, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon enfance. En regardant la télé, il y avait quelqu'un qui faisait des dessins animés qui s'appelait Tex Avery. Et Tex Avery avait toujours le loup qui était habillé dans une toison, sur une toison de laine, avec ses dents qui étaient là. Mais l'idée, c'était de faire tromper les autres. Et ça, c'était drôle. Un faux prophète n'est pas drôle. Un faux prophète mène à la mort. Qui se souvient de, par exemple, de David Koresh? C'est lui que, au Texas, pendant 51 jours, a fait face au FBI et a enseigné pendant toute sa vie des doctrines fausses comme un faux prophète de Dieu et a mené beaucoup de personnes à leur mort à ce moment-là. Nous pensons à ces choses. Nous pensons à l'Ancien Testament. Par exemple, il y a Jérémie qui prêche à Jérusalem, qui est entouré de ses ennemis. Ses ennemis viennent. Et qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Il prophétisait que Babylone allait détruire Juda. Et qu'a fait-il? Il a fait un joug en fer. Et puis, il a mis autour de lui. Et il a dit, voici ce que Dieu va faire. Il va vous mettre dans l'esclavage babylonien. Malheureusement, il y avait un faux prophète qui s'appelait Anania. Et qu'a-t-il fait? Il a pris du coup le joug de Jérémie et il a cassé et il a dit, voici ce que Dieu fera à ses ennemis. Il va vous libérer. Bon, quel message est le plus facile à quoi à accepter? D'être sous l'esclavage si on continue, ou d'être libéré par Dieu. Et nous avons ces deux visions, la vision de Jérémie qui dit humiliez-vous devant le Seigneur et il va vous sauver. Rendez-vous à ces Babyloniens et vous aurez la vie. Et un autre qui dit, ah non, continuons dans notre orgueil, n'admettons pas notre péché. Et là, le danger, c'était la mort. Je crois que ce qui est important ici, c'est de voir que Jésus n'est pas nécessairement, même si on peut appliquer ce qu'il dit à l'Église moderne, il n'est pas en train de parler de l'Église d'aujourd'hui. Je crois qu'il est en train de parler de lui et les autres qui viendraient après lui. Matthieu chapitre 24, en parlant de la destruction de Jérusalem, au verset 11 et 12, dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 24 dit, car s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Ce que Jésus est en train de dire, je crois, c'est qu'il parle de l'avenir, il parle du fait que Jérusalem va être détruite à travers des faux messies, à travers des faux prophètes, qui allaient dire qu'il fallait faire la rébellion contre Rome. Et nous savons quel était le résultat de cela. C'était une guerre des Juifs contre les Romains et finalement, l'année 70, la destruction de Jérusalem. Ces faux prophètes, donc, allaient inspirer le peuple à aller contre les ennemis du peuple plutôt que d'accepter cette soumission qui était là. Et Jérusalem donc serait détruit, le temple serait détruit et la fin de ce culte à Jérusalem serait réalisée. Et je crois que c'est de cela que Jésus parle en ce moment-ci, qu'il y a des faux prophètes qui vont faire cela. Dans l'étude que nous avons faite pendant une semaine à Gmunden, on a entendu un enseignement sur l'Évangile selon Marc, et le professeur du Nouveau Testament qui était là a dit, dans les 100 ans avant la destruction de Jérusalem, nous avons 63 personnes qui se sont annoncées comme Messie. 63 personnes qui se sont annoncées comme Messie. Et ce que nous savons, c'est que parmi ces 63 personnes, il y avait un seul qui était le vrai Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie. Donc, quand nous regardons ces différentes choses, regardons ces choses dans le contexte de la vie des Juifs à l'époque, mais regardons aussi ces choses pour nous. C'est-à-dire, je crois que le défi pour nous, c'est d'avoir une vie qui correspond, c'est-à-dire une vie qui correspond à ce que nous enseignons. Le faux prophète a un fruit qui tue. Le bon prophète, c'est-à-dire Jésus, a un fruit qui mène à la vie éternelle. Et dans nos vies, c'est bien d'avoir un bon discours, mais ce que Dieu veut de nous, c'est vraiment que nous ayons un fruit qui porte de belles choses. Nous pensons évidemment aux fruits de l'esprit. Nous pensons aussi à l'amour, la foi et l'espérance. Nous pensons aussi à la joie, que l'esprit nous donne. Et donc, toutes ces différentes choses sont là. Donc, avec cela, je finis avec le texte de 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.